Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, ville européenne du vin 2019 sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, on parlera de gastronomie avec un chef colombien qui est exceptionnel, du vin des Açores, là ça sera plutôt du côté du Portugal, de Savenière et le Vino Quiz en jouant sur invinoradio.fm pour gagner des super cadeaux. À mes côtés, ils sont là, les trois, le trio Chic et Choc, Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Hélène ? Vous voulez prendre la parole ?
Écoutez, vous féliciter éventuellement parce que vous nous cachez des trucs.
Ah non, on cache rien du tout ici.
Ah mais si. Je ne savais pas et quand j'ai ouvert le magazine Gourmand ces jours-ci, eh bien écoutez, j'ai vu que vous nous faisiez des infidélités. Moi, je croyais que vous n'étiez fidèle qu'à nous, que uniquement Sud Radio, uniquement nos auditeurs. Eh bien non, des lecteurs aussi, donc dans Gourmand. Sympa vos bons plans sur les foires au vin.
Ben oui, il y a des bons plans. Il y en a un ou deux qui vous plaît ou pas ? Dites-nous.
Eh bien écoutez, il y a des trucs avec lesquels je suis d'accord, d'autres non, mais on en parlera hors antenne si vous voulez bien.
Bon, en tout cas, ça c'est à lire dans le magazine Gourmand.
Voilà, et c'était très sympa de voilà. Enfin, je conseille aux auditeurs qui seraient en manque entre deux émissions de lire Gourmand, comme ça, voilà, ils savent quoi mettre dans leur caddie.
C'est sympa, merci pour ce clé, Hélène Pio. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Romuald Perron, qui est propriétaire du domaine Saint-Sébastien. Bonjour Romuald.
Bonjour à tous.
Alors, il
bonjour.
Paraît que vous êtes le vignoble le plus proche de la mer au monde. On a mesuré, effectivement, elle est pas loin de chez vous, la mer, hein.
D'abord, on est le vignoble le plus au sud de France, puisqu'on est à la frontière espagnole. Et on est le plus proche de la mer, évidemment, puisque ce sont les Pyrénées françaises, qu'on appelle la Côte Vermeille, qui se jettent dans notre belle mer méditerranée.
Et vous, votre cave, elle est quoi ? Elle est à 20 mètres de la mer, quoi ?
Elle est à 20 mètres. Il n'y a que la route nationale à traverser. Et vous êtes sur le port de Manille-sur-Mer.
Ah bah ouais, il est sur son bateau, là, en ce début septembre. Là. Hélène ?
Mais alors, ils sont salés, vos raisins ? Ça se passe comment ?
Ah ben ils sont salés, les raisins. On a notre typicité de toutes nos parcelles qui se situent en bord de mer, des notes surtout présentes sur nos collioures blancs et nos collioures rouges, ces notes salines et iodées qui sont caractéristiques de nos parcelles de bord de mer.
Alors effectivement, on va reprendre un peu, maintenant qu'on a le contexte géographique, on va reprendre le contexte un peu historique, donc de ce Clos Saint-Sébastien. Vous y êtes arrivé quand ?
Alors le Clos Saint-Sébastien date de 2001. Exactement, c'est Monsieur Pierre Beck, qui était l'ancien maire de Manille-sur-Mer, qui avait créé ce domaine. Et moi, je suis arrivé en 2008 avec un autre associé, donc breton, qui s'appelle Jacques Piriou, qui était le propriétaire du chantier naval de Piriou de Concarneau, un des plus hauts de France. Et on a décidé, en 2008, de reprendre ce domaine, qui avait 15 hectares à l'époque, et de le développer, d'essayer de le moderniser, et d'arriver aujourd'hui à 20 hectares, suite à un autre achat qui s'est déroulé en 2014. On a racheté un autre domaine en 2014 qui s'appelle le Clos Châtard. Et donc, on a fait la fusion du domaine Saint-Sébastien, qui est le domaine originel de Pierre Beck, avec le domaine du Clos Châtard. Et on est devenu depuis 2014 le Clos Saint-Sébastien.
Romuald, donc vous produisez, donc déjà, vous êtes basé à Bagnols-sur-Mer, et vous produisez donc des Collioures et des Bagnols.
On produit les deux types de vins qu'on peut faire sur Côte Vermeille, oui, c'est-à-dire les vins secs qui s'appellent les Collioures, en blanc, en rosé et en rouge, et les vins doux naturels, qui sont les Bagnols et les Bagnols Grand Cru, qu'on produit bien sûr avec notre cépage emblématique, qui est le Grenache.
Hélène ?
Vos autres cépages alors, puisque effectivement, comme vous avez plusieurs couleurs.
Mais le cépage traditionnel, c'est le Grenache, avec les trois couleurs. Le Grenache gris et blanc, qui permettent de faire tous les vins blancs, soit en Collioure ou en Bagnols, et le Grenache noir. Ensuite viennent s'ajouter le vieux cépage traditionnel du Roussillon, qui est le Carignan. Et puis on appelle maintenant les cépages dits améliorateurs, qui permettent de diversifier les assemblages des collioures. En blanc, on va dire le Vermentino, la Marsanne et la Roussanne. Et sur les rouges, la Syrah, le Mourvèdre, voire le Cinsault. Mais le Grenache représente aujourd'hui 90% de l'encépagement de notre appellation.
Alors, vos vins, donc, effectivement, dont on a dit les appellations, où est-ce qu'on peut les trouver ? On les trouve que dans votre région ou rassurez-nous, il y en a aussi à Concarneau. Jacques Piriou, on a remonté avec lui à Concarneau, ça se passe comment ?
Ah, Concarneau, évidemment. Donc, j'en profite pour passer le bonjour à notre ami Philippe Perron, propriétaire de la cave du Moros, plus grande cave de Bretagne, donc qui est un partenaire principal de notre cave. Après, nous produisons aujourd'hui, 5000 bouteilles. 5000 bouteilles qui se répartissent très simplement, c'est un tiers de vente directe, un tiers France, donc à travers la France, et un tiers à l'export, donc principalement États-Unis, Canada, Japon, Suisse et Danemark.
Alors, Hélène, vous avez goûté donc l'ensemble des vins de ce domaine Saint-Sébastien, une très belle maison. Vous en avez sélectionné un pour les auditeurs de Invino Sud Radio. C'est donc le vin coup de cœur de ce samedi 7 septembre.
Absolument. Il s'appelle Inspiration Minérale 2017, donc du Clos Saint-Sébastien. Et c'est mon coup de cœur pour son nez très frais, mentholé. J'étais très étonnée par ses arômes d'ananas. Je ne savais pas qu'il y avait des ananas à Collioure, mais clairement,
il y a tout ce qu'on veut à Bagnols et à Collioure.
Mais c'est ça.
Il suffit de demander.
Très clairement.
Tout
il y avait une plantation d'ananas là-bas parce que c'était vraiment flagrant. En bouche, on avait les mêmes notes, avec en plus une légère amertume, une petite touche de poivre qui donnait de la longueur. Final pamplemousse pleine d'énergie. Moi, j'ai essayé avec un ceviche de poisson blanc avec, où j'ai mis un petit peu de capre pour rappeler l'acidité, des fleurs de capucine pour la couleur et pour le côté poivré. C'était super joli et c'était super bon. Et puis, on a continué avec un petit assortiment de chèvre frais et sec, on s'est régalé. Donc voilà, l'inspiration minérale 2017, le Clos Saint-Sébastien.
C'est votre coup de cœur, quoi.
Vous nous rappelez le prix.
20, une note sur 20, Hélène.
Oh, une note sur 20, on va mettre 22.
22 sur 20, quoi. Le prix, Romuald.
Merci beaucoup, Hélène.
Ah, Philippe, Romuald,
le prix de la bouteille.
Si... Prix public des parcs caves, 28 euros TTC.
28 euros TTC. Merci. Philippe Orbach, il y a une question.
Non, je voulais savoir si c'était un mercredi que vous avez goûté ce vin.
Un mercredi.
Alors, parce que c'est le jour du marché et c'est vraiment l'histoire du marché que vous nous avez raconté.
Ah oui, c'est vrai que c'était...
Effectivement.
Il y avait tous les ingrédients. Merci beaucoup. Merci Hélène Pio. Merci également à vous, Romuald. Ne change rien, vous êtes parfait, Romuald. Hein.
Merci Alain et merci à toute l'équipe. À bientôt.
Invino Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et des spiritueux, pour nous parler du vin des Açores. Vous parlez portugais ou pas, David ?
Eh bien non, malheureusement non, mais je vais essayer de m'y mettre parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes sur le plan viticole et vinicole qui se passent au Portugal. Et Portugal et les îles. Là, j'ai découvert assez récemment, un peu dans l'esprit de ma chronique de dimanche dernier, qu'il faut ouvrir les horizons et découvrir. Donc j'essaye de le faire aussi. Il faut le faire. On n'a jamais fini de découvrir les choses dans le vin. Et j'ai appris assez récemment qu'on faisait des vins aux Açores. Alors les Açores, où est-ce que ça se trouve ? C'est pas tout à fait au milieu de l'Atlantique, mais c'est assez loin. C'est sur la même latitude que Lisbonne, la capitale du Portugal. Mais c'est un tiers du chemin vers Terre-Neuve. Donc on est vraiment battu par les vents, par les vagues au milieu de l'Atlantique. Alors, je me disais que c'était peut-être un lieu un peu inhospitalier pour le vin, mais on a trouvé, comme toujours, l'homme est très ingénieux pour des produits agricoles, à trouver des remèdes. Je vais essayer de décrire les techniques très particulières pour faire du vin dans ces îles. C'est un archipel d'origine volcanique, avec une île principale qui s'appelle Pico, et dont l'ancien volcan constitue le point le plus haut du territoire portugais. C'est 2600 mètres, en gros. Là, on est dans les nuages, donc il fait beaucoup trop froid, trop humide, beaucoup de pluie. Je crois qu'il y a 1700 mm de pluie par an. On ne peut pas faire du vin sur la montagne. Par contre, proche de la côte, on a découpé des blocs de lave, parce que tout le territoire est fait de lave, pour faire des petits murets. Et puis, on a planté au milieu de ces mini-parcelles des vignes, dont les racines se plongent dans les infractuosités de la masse basaltique. Il y a un dicton local que j'aime beaucoup à Pico, que je trouve très joli. La vigne doit entendre les crabes. La vigne doit entendre les crabes. Ça veut dire qu'il faut planter proche de la mer, pas à l'intérieur de la terre. En général, on s'écarte un peu de la mer à cause des vents, mais ces petits murets servent de protéger la vigne du sel qui vient de l'éclaboussure des grandes vagues sur la côte. Alors ça, c'est quelque chose de très important, mais ça rend le travail extrêmement ardu. J'ai parlé avec Antonio Mathanida. Antonio est un vigneron portugais, un producteur portugais, dont la mère vient d'Alentejo. Il a commencé à faire du vin en Alentejo. Après des voyages, il a travaillé à l'Anchbage, il a voyagé en Australie, en Californie. Ensuite, son père vient de Pico. Il a commencé à faire du vin à Pico, dans les Açores. Et maintenant, il fait aussi du vin avec sa sœur qui vit dans le Douro. Donc, il fait le grand triangle.
Oui, c'est une belle région, le Douro.
Et c'est très passionnant. Donc, il a aidé à reconstituer. Beaucoup de vins sont faits par une cave coopérative. Les cépages sont aussi très originales. Le phylloxera est passé par là, a détruit le vignoble au 19e siècle.
Le phylloxera, c'était quoi,
oui,
ça, David?
C'est cette maladie, comme toutes les bonnes choses qui viennent des États-Unis.
Marqué en Angleterre, il y a quelques noms qui circulent aussi.
Oui, non, mais bon, l'Angleterre, à mon avis, ambition de devenir le 52e État des États-Unis. Donc, je leur souhaite bon courage. Je reviens aux Açores. Les Açores, donc, des cépages très particuliers. Donc, il fait frais, il fait venteux, et on protège les vignes par ces murs en blocs de lave qu'on découpe et on fait des cercles autour des vignes. Les cépages sont typiquement des Açores et ont parfois des synonymes avec les cépages portugais, mais ce n'est pas les mêmes cépages. Par exemple, la Rintoul, le Verdelho et le Terranezes sont autochtones, en tout cas sont des variantes qui sont spécifiques aux Açores. On a pris certains de ces cépages pour les planter plus au sud, dans les Canaries d'ailleurs.
Ah oui.
Les quelques rouges sont assez vifs, assez légers. C'est les blancs qui sont les plus intéressants. On trouve le Tintoro Riche ou l'Argonèche, le Castelao, le Rufete et le Saborinho. Les vins blancs sont vraiment assez proches en style des vignes verdées, c'est-à-dire vifs, légers, assez fruités ou moyennement fruités. C'est vraiment des vins qui vous réveillent au palais, qui réveillent le palais, qui vous donnent très envie de manger des fruits de mer. Mais c'est des paysages absolument étonnants.
Très jolis, quoi. D'ailleurs, on va poser une question à notre invité qu'on avait tout à l'heure, Romuald Perrot. Romuald, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, oui, allez.
Et alors, vous avez également vendangé sur des îles. David parle d'îles. Et vous avez vendangé il y a quelques années. Avant, dans la Banyu, vous étiez où exactement ?
À Ibiza.
À Ibiza, quoi.
Là, il fait plus chaud. Hein. Nettement plus chaud.
Il y a un truc spécial de vinifier, de vendanger sur une île ? Ou alors, c'est la même chose qu'à Banyu, à part qu'il n'y a pas d'île ?
C'était surtout la spécialité des Mourvèdres, parce qu'il y avait ce qu'on appelle le monastrey. Ouais. La grande particularité, c'était un pied franc, parce que le pied serré n'était pas arrivé dans les sables. Bon. Il y avait beaucoup de Mourvèdres en pied franc.
Et pour terminer, d'ailleurs, c'est toujours important dans une bonne bouteille de vin, Romuald, vous avez un bouchage particulier peut-être pour vos bouteilles au domaine Saint-Sébastien ?
Ah ben, au Clos Saint-Sébastien, on utilise principalement les bouchons de jam et les soies cuvées que l'un avait sélectionné, donc Destillation Minérale. On utilise le fameux bouchon diam 30.
30, qui marche très bien, quoi.
30, bon. Qui nous permet d'avoir une perméabilité extrêmement faible.
Extrêmement bien, quoi. Merci beaucoup. Ben, on continue avec David, parce qu'on a fait un petit détour par vous, là, pour parler des îles, et on revient avec David sur une autre île.
Donc, Pico n'est pas la seule île des Açores, parce que, comme je le disais en début, c'est un archipel. Il y a une autre île sur laquelle on peut trouver du vin, ça s'appelle Biscoitos. C'est un tout petit peu territoire qui est situé au nord de Terceira. On fait des vins aussi fortifiés sur ces îles. Il ne faut pas oublier que l'origine de la viticulture, c'était les Portugais qui voulaient ravitailler les bateaux.
Merci beaucoup David Cobol, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, avec le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, nous sommes Place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec The David Cobold et le Vino Quiz, David.
Et oui, le principe est simple. Chaque semaine, nous vous posons une question, une bonne, sur le vin. Et le vainqueur, qui est excellent, gagne un très beau cadeau. Devinez quoi ? Un abonnement à la revue de Vin de France.
Très bien, un an en plus.
C'est pas joli ça ?
Très joli cadeau.
12 mois. Voici la question de ce week-end. À quelle célèbre émission de cuisine notre invité Juan Abalez a-t-il participé en 2012 ? Réponse A, Bon Appétit, bien sûr. Réponse B, Top Chef. Réponse C, pas Top Chef.
Bon, d'accord, pas Top Chef, très bien.
Dégage, chef.
On a connu mieux.
Alors, pour gagner un abonnement d'un an, je le rappelle, à la revue de Vin de France, rendez-vous sur toute la semaine sur le site invinoradio.fm. dans la rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort.
Merci beaucoup David Cobol. Vino Sud Radio accueille maintenant un homme qui nous vient de Colombie au tout début, non ?
Alors, il nous vient de Colombie, il nous vient de Boulogne, et puis il nous vient de Grèce aussi maintenant, il nous vient de la banlieue parisienne, enfin il nous vient d'un peu partout.
Et son prénom, c'est Juan.
L'essentiel, c'est qu'il soit là, voilà, absolument. Exactement. Juan Arbelez, bonjour.
Bonjour.
Alors effectivement, vous êtes cuisinier, vous êtes... Alors, on va reprendre depuis le départ. Colombien.
C'est ça.
Allez, on va le dire, tombé fou amoureux de la France.
Complètement fou amoureux de la France.
C'était quand ça, l'amour en France ?
Bah, déjà petit, moi j'ai nagé un peu dedans, je pense, parce que ma mère et mon grand-père sont des grands fous amoureux de la France.
Ah, ça c'est bien.
Ma mère était venue une seule fois et ça l'avait marqué. Elle avait 20 ou 22 ans, je sais plus. Et ça l'avait vraiment marqué. Mon père n'a jamais, on n'était jamais venu, mais c'est aussi un fan de l'Europe. Et mon grand-père, son rêve toujours, d'enfance, ça a été vraiment ça. Sa folie, c'était devenir cuisinier à Paris. Donc, je pense que d'une certaine façon, j'étais en train d'accomplir le rêve de mon grand-père.
Quoi, c'est ça, c'est
ouais,
super, ça.
Il fallait.
Est-ce que c'est sa passion de la France qui l'a poussé à appeler votre maman Jeannette?
Oui, c'est vrai. J'ai Christian, Jeannette, j'ai Lissette, j'ai Lucette. Il y a
et vous, Juan, bon.
Ouais, moi, je sais pas. Ils ont fait un petit un hors-piste. Mais c'est vrai que il y a eu toujours cette passion de la France dans ma famille, sans trop la connaître, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu la chance de la goûter, de la voir. De la déguster, ouais. et je sais pas pourquoi mais ça tombait bien.
Et alors vous arrivez en France au culot, vous poussez la porte de l'Institut Cordon Bleu, vous remplacez au pied levé un candidat qui ne s'est pas présenté le jour du concours et vous arrivez premier.
C'est vrai que c'est une histoire, j'ai toqué aux portes de l'école du Cordon Bleu, j'ai proposé de travailler en échange des cours parce qu'à l'époque j'avais pas vraiment les moyens de me payer l'école. Et ils m'ont laissé faire le déjeuner des chefs et les mises en place pour les cours. Je rencontre les chefs parce que je les nourris et les professeurs. Et un jour, à un repas, à un concours final, il y a un des étudiants qui ne se présente pas. Je demande si je peux le passer à sa place. Il s'arrête, qui me dit « Bon, bah, petit con, vas-y, de toute façon, tu ne sais rien faire. » Il me laisse faire. Et le jury, qui était un jury externe, avec un chef qui était dedans, me donne la meilleure note.
Et belle histoire.
C'est incroyable. Et du coup, en sortant, il y a un des jurys, Patrick Terrien, qui est un chef incroyable, qui adore le vin, sa cuvée, et il adore Jackie Blou.
Ah, mais
c'est
vrai.
Il est à Tours.
C'est pas trompé.
Il est à Tours. Il adore.
Sur Mont-Louis, notamment.
Ouais. D'ailleurs, oui, et je lui dois un dîner chez Jackie Blou à Cadman.
On veut bien venir aussi. Hein.
Et, ouais, et du coup, ce chef, il me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui dis mon rêve, c'est de rentrer chez Pierre Gagnaire, mais il prend pas de stagiaire. Et il sort son portable. Il appelle Pierre Gagnère, une semaine derrière, j'étais
ah, c'est
alors,
beau,
après,
ça, c'est magique.
Après, il y a toute l'aventure Top
et alors,
Chef.
Pauline, est arrivée quand, alors, dans l'histoire? Allez-y,
enfin, après, il y a toute l'aventure Top Chef. Et puis, un jour, voilà, de fil en aiguille, vous ouvrez le premier restaurant, le deuxième, le troisième. On en est au sixième. Alors, je vais tous les citer, pas forcément dans le bon ordre. Hein.
Ils sont tous à Paris, hein, déjà, Hélène. Hein.
Ils sont tous en région parisienne.
En région parisienne, d'accord.
On en a deux à Boulogne, Plancha et Levain. Donc, Plancha, plutôt bistronomie. Levain, autour du pain et du vin, on y reviendra bien sûr. Toujours hors Paris, on va dire, on a les deux Yaya. On a un des Yaya, Yaya Saint-Ouen.
Elle est troublée, Hélène, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
Eh bien, écoutez, oui, on a Maya, Ville d'Avray également. Et puis Yaya Al-Secrétan, qui est dans le 19e. Et j'ai oublié Vida, qui est dans le 10e arrondissement. Donc ça fait beaucoup de choses. Celui sur lequel je voudrais qu'on revienne aujourd'hui, ce serait le vin, puisque c'est autour du pain et du vin.
Ouais, c'est marrant, mais pendant très longtemps, j'ai préparé des énormes repas, je bossais dans les étoilés, je me rendais compte qu'il y avait deux éléments qui étaient toujours des espèces de Don Quixote, qui étaient toujours là, accompagnants, fidèles, ils étaient toujours là, mais on ne leur donnait pas assez d'importance. C'était toujours un peu le deuxième rôle. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit qu'il y avait quand même un univers incroyable autour du vin et autour du pain. Et j'ai eu envie de les mettre un peu au centre de...
Mais c'est un resto où il n'y a que du pain et que du vin?
Non, mais, mais tous les plats tournent autour de ça.
D'accord.
Donc du coup, on remet un petit peu cette...
Mais quoi, par exemple?
Bah, tous les recettes qu'on oublie un peu, le fameux chabrot.
Ah,
ouais, ça c'est incroyable, ah ouais, c'est une grande tradition qu'on a oubliée en France.
Dans le sud-ouest, oui.
Exactement, dans le sud-ouest, où on avait le bout de soupe ou le bout de plat, on rajoutait un petit coup de pinard.
Bah, ouais.
On a un
moi j'adore
un peu
ça,
de
je
pain.
Vais venir chez vous. Alors,
c'est
ça,
génial. C'est hein. Ouais. Et du coup, c'est vrai que cette tradition, on a essayé de la remettre un peu à l'heure du jour. On a fait beaucoup de plats en sauce et on a retravaillé. J'adore cette phrase, elle est vulgaire mais coquine. J'adore ce plat
qui a été. Hélène qui va rougir.
Non, mais ce plat qui a été un tout petit peu prostitué par la brasserie, qui est la tartine. Vous voyez la tartine qui en vrai c'est une recette incroyable parce que c'est une tranche de pain au levain qui est bien snacké à la plancha avec un beau morceau d'épaule d'agneau, un peu de roquette, un peu de parmesan, un bon jus un peu réduit, ça avec un bourgogne un peu épicé, ça marche très bien. Donc du coup, c'était remettre un peu comme le centre du scénario ou du film, le pain et le vin qui étaient toujours.
Et comment vous avez pour financer tout ça? Parce que 6-7 restos, c'est énorme quand même.
Bah, le premier, c'était plancha. Je suis arrivé, j'avais 2000 euros économisés en poche parce que j'ai toujours été un bon vivant et j'adore le vin et je dépensais tout dans des bonnes bouteilles, tout ce que j'ai économisé. Et en fait, j'ai réussi à faire décoller un restaurant qui était en faillite.
D'accord.
Placcia à Boulogne.
Exactement, Placcia à Boulogne. Ça a tellement cartonné, c'est devenu un des emblèmes de Boulogne. Et le banquier m'a appelé pour me dire, est-ce que tu veux pas ouvrir un deuxième ?
C'est le banquier qui vous a appelé.
Ça, c'est singulier.
Alors quand le banquier, alors,
quelle marque, quelle
maison alors ?
Non, je le dirai pas parce que je suis plus chez eux.
Ah bon, d'accord, ok.
Ah, mais toi, t'es trop élevé. Fidèle. Je me suis rendu compte qu'après, il m'a prêté de l'argent, mais trop cher.
Ah bon, d'accord. Enfin, déjà, il l'a prêté.
Du coup, moi, je voudrais revenir sur le vin.
Dernière question, oui.
D'où vient le pain ? D'où vient le vin chez vous ? Est-ce que le pain, c'est vous qui le faites ? Est-ce qu'il est fait au restaurant ?
J'ai voulu faire le pain au restaurant et en fait, à le vin, vu l'espace, on n'a pas réussi. Aujourd'hui, on fait le pain chez Yaya et à Vida. À Levain, on a travaillé avec un boulanger qui est à 100 mètres. J'adore travailler local.
Cercle court.
Et du coup, on a travaillé une recette qui était parfaite pour nos tartines, parfaite pour nos... pour saucer, parfaite pour tout ça. Donc c'était un peu l'idée.
Bon, c'était super. Vous avez quoi, un site internet ? Vous avez quoi, 7 sites internet, hein ? Parce qu'il y a Froufrou aussi là.
Hein ? Il y a Froufrou, ouais, qui est un restaurant où je signe la carte qui appartient au groupe MoMA. C'est du sharing à la française.
Voilà.
C'est un des plats français du partage. Oui, Benjamin.
Au théâtre Édouard
VII. Voilà. Bon, allez, il faut y aller. C'est super.
Là-bas ce soir.
Vous êtes formidable et vous avez déjà une fiancée potentielle, Hélène Pio. Merci beaucoup. Une vidéo sur radio retrouve Philippe Forbrack qui n'a pas envie de se fiancer avec vous. Juan, mais c'est super sympa.
Bah,
à ma connaissance. Hein. Il pique un peu, oui.
On peut préciser une bouteille.
Président de la sommellerie française pour nous parler de Savenière. Mais nous sommes où, Savenière, alors, dites-nous.
Nous sommes dans la Loire, à deux pas de d'Angers, dans le sud-ouest de ce beau pays angevin, sur les bords de la Loire, d'ailleurs. C'est la rive nord de la Loire. C'est une trentaine d'hectares, célèbre depuis longtemps. Hein. Les vins de Savenière, ils n'ont pas attendu aujourd'hui pour faire plaisir aux gens. C'est un vin qui est déjà à l'époque romaine, comme beaucoup. Et à l'époque monacale également. D'ailleurs, la Roche aux Moines est un des terroirs les plus connus et ça prouve bien que à cette époque-là, les monastères étaient déjà extrêmement puissants et présents. Ce sont des coteaux particuliers, extrêmement bien exposés. Je disais tout à l'heure, c'est pas grand, une trentaine d'hectares en tout, hein, dont 7 hectares pour un vignoble très célèbre qui est la Coulée de Serran. Je vais y revenir tout à l'heure. On parle toujours de la craie, du tuffeau, du calcaire, ce qui est vrai, hein, en sous-sol, il y a souvent ça. Mais finalement, à Savenière, la singularité du sol, c'est que ce sont des schistes plutôt, et qu'effectivement, ça donne un caractère tout à fait particulier à ces vins.
Vous connaissez, Juan, les vins de Savenière ? Peut-être on parle Philippe, quoi.
Oui, on en travaille beaucoup en cuisine parce que les accords sont hyper intéressants. C'est un vin qui est très particulier. On finit des sauces pour des volailles. On va travailler avec des homards. C'est très particulier.
Ça fait quand même plaisir d'avoir un chef qui aime le vin.
C'est pas tous, vraiment. Qui sait en parler, qui sait le boire aussi. Hein.
Parce que c'est un des.
On a un nouveau chroniqueur là, pour l'émission Invino.
C'est un des blancs secs qui est très légèrement tannique. Je pense que c'est ça qui fonctionne dans ces accords.
Alors, c'est dû au schiste, c'est dû aussi au cépage singulier, qui est le chenin blanc, qu'on a honoré il y a quelques semaines, puisque fin juin, il y avait un symposium autour de ce cépage chenin. Oui. Et également une polée particulière, puisqu'il y a eu la 8e édition de la polée des vins d'Anjou. Et ce fameux chenin, effectivement, qu'on avait également le Pinot de la Loire, fait les beaux jours de cette appellation depuis très longtemps. Aux arguments que vous avez développés autour de la table, aux gens qui nous écoutent, il y a aussi cette singularité particulière, c'est sa capacité à gérer l'amertume en fin de bouche et à donner une profondeur, une longueur remarquable, et son acidité également, puisque c'est pour ça que c'est très intéressant en cuisine, dans les sauces, dans des déglaçages, tout ça, c'est remarquable, parce que tout en étant cuisiné, il garde sa personnalité.
Ouais.
Donc ça donne un peu comme les vins jaunes dans un tout autre registre, effectivement un caractère très profond à la cuisine et aux sauces en particulier. J'ai souvenir de grands chefs de cuisine il y a quelques années qui m'avaient dit, le génie de la cuisine française, c'est le vin. Alors je dis, mais oui, effectivement, les grands vins qui sont servis avec. Il me dit, oui, non seulement les vins qui sont servis, mais les vins qu'on met également dans la cuisine et qui sont dignes d'intérêt, c'est ce qui donne aussi un caractère particulier à la cuisine française, notamment. J'aime beaucoup les vins de cette appellation qui produit que des blancs. Hein. J'ai évoqué rapidement la Coulée de Serran qui est quand même l'un des fleurons historiques.
Oui,
7 hectares au fond d'un vallon.
David, on peut d'accord, pas d'accord.
Qualité très variable, trop cher pour ce que c'est.
C'est un vin en tout cas qui a une singularité très forte, due notamment à un terroir particulier. On est au fond de ce vallon particulier et une exposition très différente par rapport au reste de l'appellation. Et puis la singularité aussi de Nicolas Joly, de la famille Joly, que depuis des années s'acharne à faire des vins. On peut aimer ou pas aimer le style, être plus ou moins contre la.
Allez-y,
bio et la
David, vous en.
Le roi du pipeau.
Ah bon, ben voilà, vous l'aimez
faire
pas.
Faire en sorte, en tout cas, que
On l'écoute, on l'écoute pas. En tout cas, quand on goûte son vin, on peut l'aimer ou pas l'aimer, franchement. Mais en tout cas, ce sont des vins qui ne laissent pas du tout indifférent. Autour de ce cru très célèbre, tout à l'heure, on évoquait la Roche-aux-Moines, hein, qui appartient effectivement...
Bien sûr.
Ils ne sont pas nombreux, les producteurs, mais c'est très intéressant également. Et puis, les Savenir tout court, qui sont franchement de très bonne qualité et aussi d'un bon rapport qualité-prix. Ce ne sont pas des vins très, très chers. Or, ce sont des vins qui ont une vraie personnalité. On est juste à deux pas de Bonzo de Cardechaume, qui sont deux appellations extrêmement célèbres également, qui produisent pour eux des vins plutôt liquoreux. Sachez que justement à Savenir, on fait plutôt des vins secs, mais qu'il y a également une tradition de vins moelleux. Quelques vignerons rapidement.
Bien sûr.
Pour terminer, le château de Chambourreau, le domaine de la Roche-aux-Moines, le domaine de la Monnaie, encore le domaine du Clauzel font partie des stars un peu de l'appellation.
Merci beaucoup Philippe, merci également à vous Hélène, David et Juan, merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous parlerons notamment de vin et bien sûr mais de l'histoire de la biodynamie de la Corse et puis de la collecte des bouchons organisée par Nicolas. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à tout le monde et notamment Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.